la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
Et dans cette chronique « Je lire » sur JetFM, je lire précisément un gros livre publié aux éditions Buchet-Chastel, un roman de Nathaniel Jan Miller, baptisé en français « L'Odyssée de Sven ». Il coûte 24,50€ et le livre fait quelques 470 pages. J'en suis à une grosse moitié. « L'Odyssée de Sven » est fort bien traduit de l'anglais des États-Unis par Mona de Pracontal pour les éditions Buchet-Chastel et, à l'exception du titre qui me laissait un peu circonspect, « L'Odyssée de Sven » dont le titre original est « The Memoir of Stockholm Sven ». Parce que de quoi s'agit-il ? Eh bien, de Sven, un personnage assez truculent qui vient de Suède, de Stockholm, et qui va se retrouver par un concours de circonstances plus ou moins volontaires au cœur du Spitzberg, c'est-à-dire cette dernière terre possible complètement gelée au niveau du cercle arctique. Et en 1916, en pleine guerre en Europe, eh bien, il s'en extrait complètement pour vivre au milieu des mineurs tout d'abord, puis des trappeurs. Et c'est en ça que c'est une odyssée en effet, mais ce sont des mémoires puisque racontées à la première personne. Il va vivre différentes péripéties, c'est comme un récit initiatique et il va y avoir différentes périodes qui sont réparties dans le livre en différentes parties. Nathaniel Jan Miller est un primo-romancier, c'est son premier roman, et c'est assez étonnant car il est éleveur de bétail dans le Vermont. On ne s'attendrait pas exactement, quand on sait cet élément biographique, au récit qu'on va lire. On imaginait plus facilement quelque chose d'une littérature proche de Jim Harrison ou d'autres. Et en même temps, il y a quelque chose de l'aventure, il y a quelque chose de cette virilité des hommes entre eux, puisque à cette époque-là, aucune femme sur le Spitzberg, parmi les mineurs ou parmi les trappeurs. Et c'est parce que, visiblement, en 2012, il a participé, Nathaniel Jan Miller, à une résidence baptisée Arctic Circle, qui se déroulait dans le Svalbard, le Spitzberg, qu'il a découvert la cabane de Sven. Donc il y a un élément de réalité qui a donné ce récit, l'Odyssée de Sven, son premier roman. C'est brillamment écrit et brillamment traduit parce que l'écriture de Nathaniel Jan Miller convoque une littérature de la fin du 19e ou du début du 20e siècle. On n'est pas du tout dans les carcans peut-être modernes de l'écriture, en tout cas dans une manière plus dynamique, plus contemporaine d'écrire. Il est ici question vraiment de littérature, de lyrisme parfois, et comme ce sont des mémoires et qu'on est censé suivre les pas d'un jeune Suédois en 1916, eh bien, c'est quelqu'un qui s'exprime de manière chatoyante, notamment parce qu'il est aussi pétri de littérature, comme doit l'être son auteur Nathaniel Jan Miller. Pourquoi je lis ce livre ? Eh bien, parce qu'on me l'a mis entre les mains. En l'occurrence, l'équipe de la Géothèque à Nantes qui reçoit Nathaniel Jan Miller le mardi 11 octobre prochain. Ils m'ont proposé d'animer cette rencontre publique. On aura donc l'occasion de converser avec cet auteur, Nathaniel Jan Miller, et de comprendre un peu ce qui l'a motivé à écrire cette Odyssée de Sven, dont je vais vous livrer un extrait tout de suite. Le rendez-vous donc est à la Géothèque le mardi 11 octobre prochain, aux alentours de 18h30. Je vous livre un extrait du chapitre 12, qui se situe page 76. On est vraiment au début du roman, mais il s'est déjà passé pas mal de choses dans la vie de Sven, et c'est un moment où il écrit à sa sœur qu'il a laissé pour venir justement dans le Spitzberg affronter tout d'abord la mine, puis ensuite les trappeurs. Et sa sœur est l'élément familial qui lui manque le plus et dont il se sentait le plus proche. « Chère sœur, j'espère et je veux croire que ce mot te trouvera en bonne santé. » J'espère aussi de tout cœur que tu ne considéreras pas avec trop de désapprobation mon écriture abominable. Une montagne a atterri sur la tête de ton pauvre frère et je suis à présent privé d'un globe oculaire, tandis que l'autre est encore recroquevillé d'effroi, ce qui rend ma calligraphie au mieux hésitante. Non, gentille sœur, ne te fais pas de soucis. Je suis soigné par le plus attentionné des géologues. Et s'il te venait l'idée de protester que les géologues ne sont pas connus pour leur bonté, en particulier les géologues écossais, alors je te prie de te montrer charitable envers moi dans cette période de faiblesse. J'ai certainement dû évoquer cet ami, M. Charles McIntyre, dans une missive précédente. Mais hélas, j'ai encore l'esprit tristement embrouillé et je n'arrive pas à m'en souvenir. Comme ce gentleman a su ouvrir mes oreilles à la musique. Au moins, ces organes-là sont-ils restés miséricordieusement attachés à ma tête. Je constate que ma carrière de mineur s'achève sans doute prématurément. Tu sais que je n'ai pas trouvé que c'était la profession la plus gratifiante qui soit au plan intellectuel ou spirituel, mais aucun de nous deux n'avait jamais été assez bête pour croire que ça le serait. Néanmoins, comme l'avait prédit McIntyre, la compagnie a jugé bon de me libérer de mon contrat et de me renvoyer chez moi avec une petite pension, dérisoire vraiment, pour m'indemniser de ma douleur, etc. Il se peut que je ne rentre pas. Tu trouveras peut-être que je suis un triste imbécile romantique, le héros torturé de quelques romans tragiques mal ficelés, ayant la lande ou la mer pour cadre, mais je ne supporte pas qu'on me regarde dans cet état. Que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. En réalité, parler d'un état est fondamentalement trompeur, car la transformation de ton frère, gars au physique moyennement correct, en créature difforme comme il en rôde dans les méphitiques replis du chapiteau de quelque minable théâtre de variété, enfin, c'est mon visage, maintenant, hélas. À l'intérieur, ton vieux Sven, toujours joyeux. À l'extérieur, un rosbif oxydé, tout de graisse jaune durcie et de croûte noircie. Tu sais que je n'ai jamais été du genre à rechercher l'attention. Or, sous ma pitoyable nouvelle forme, c'est elle qui me cherchera. La pitié, oui. Peut-être l'unique chose qui soit pire qu'un antagonisme flagrant. McIntyre, grand voyageur qui ne tient pas en place, connaît des gens à la compagnie d'exploration nordique, une autre entreprise minière à la recherche de richesses douteuses dans ce cruel archipel. Et il pense pouvoir m'obtenir un poste d'intendant au camp Morton. Ce n'est pas une métropole. Longyear à côté ferait figure de Stockholm, mais les mineurs et les patrons sont tous britanniques là-bas. Et tu sais ce que ça veut dire ? Terminer les satanés norvégiens. Ça veut dire aussi que ton pauvre Sven devra enfin essayer de parler anglais. McIntyre reste à Longyear pour le moment du moins, mais pendant cette période d'inertie, il m'a déjà beaucoup appris de sa langue hideuse. Il maintient que ce n'est pas sa langue hideuse, mais le croassement rauque de l'oppresseur saxon. Peut-être vais-je me réinventer un jolly gentleman ? Shocking, n'est-il pas ? Tout cela seulement pour te prévenir que je risque de ne pas revenir avant un moment, si tant est que je revienne jamais. Peut-être que ces déserts blancs ont davantage à m'offrir que je n'y ai trouvé jusqu'à présent, et que je devrais voir une opportunité, au contraire, dans la dernière en date des catastrophes de ma vie. Je te dirai si je parviens à cultiver avec succès cette philosophie insaisissable. S'il te plaît, embrasse Wilmer de ma part et fais à Helga un récit haut en couleur de mes mésaventures dans le Grand Nord. Comme elle s'esclaffera et poussera des cris, la petite brute. Raconte ce que tu voudras à mère, mais épargne-lui les détails, je ne crois pas que je la reverrai. Ton frère aimant, Sven le Borgne. Cette lettre donc que Sven envoie à sa sœur pour lui expliquer qu'il part un peu plus loin encore au sein du cercle arctique, dans le Spitzberg, et ça va durer comme ça quelques années. L'Odyssée de Sven, de Nathaniel Yarnmiller, aux éditions Buchet-Chastel, traduit de l'anglais, de l'américain, par Mona de Pracontal, rencontre avec Nathaniel Yarnmiller, dont c'est le premier roman, à la Géothèque de Nantes, le mardi 11 octobre, à 18h30. Il parle dans cette lettre à sa sœur de cet homme, McIntyre, qui lui fait découvrir entre autres choses la beauté de la musique, par le biais d'un pick-up et de quelques vinyles qu'il a, et notamment une pièce d'Anton Dvorak, le quintet pour piano et cordes, en La majeur, opus 81, et très exactement le deuxième mouvement de ce quintet, baptisé la Doumka, où Dvorak déjà travaille sur la mise en forme et la digestion d'un certain nombre d'éléments de la culture populaire, de la musique folk. La Doumka, nous l'écoutons, Anton Dvorak, quintette pour piano et cordes, en La majeur, opus 81. Thank you.
Thank you.